Bonsoir Jérôme Cadet.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la une ce soir, Le Pen, Macron, dernières heures du duel. Avant que le rideau ne tombe sur la campagne, derniers arguments, dernières images. Marine Le Pen juchée sur une voiture, sur ses terres d'élection du Pas-de-Calais. Elle dénonce un président qui brutalise et tente une nouvelle fois de lever les craintes. Nous y serons. Emmanuel Macron, lui, sur une place de village, micro en main, à Figeac, dans le Lot. Le 24 avril est un référendum, clame-t-il, nous l'écouterons. Le président candidat soutenu aujourd'hui par le trésorier des Républicains. Le parti n'attend pas dimanche pour se déchirer, nous dira Anne Souhaitemont. À la une également ce soir, ces images de fosses communes près de Mariupol en Ukraine, diffusées par une société américaine, des milliers de civils y seraient enterrés. Et puis une grande comédienne, Isabella Rossellini, devenue spécialiste du comportement animalier. Elle en fait une pièce de théâtre donnée la semaine prochaine à Nice.
France Inter. L'une dans le nord, l'autre dans le sud.
La géographie de cette dernière journée de campagne résume le fossé qui sépare les projets des deux candidats à l'élection présidentielle. Avant de nous rendre à Figeac dans le Lot où Emmanuel Macron s'est exprimé pour la dernière fois avant dimanche, prenons la direction de Berck, département du Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale. C'est à deux pas du Touquet où vote son rival que Marine Le Pen a jeté ses ultimes forces dans la bataille. Visite d'un centre de rééducation pour personnes en handicapé cet après-midi, histoire d'illustrer son discours d'Arras, hier où elle s'est posée, Élodie Forêt, comme la porte-voix des plus fragiles.
C'était la dernière séance de Marine Le Pen, alors il fallait une dernière fois tenter de rassurer.
Il avait dit qu'il fallait renvoyer les migrants chez eux, et s'ils sont handicapés, amputés ou tétraplégiques, est-ce qu'on peut les renvoyer chez eux? Matériellement, c'est compliqué.
Humainement, c'est quand même difficile.
Merci.
Vous savez, toute la politique qu'on mène, c'est une politique humaine et de bon sens.
Une politique humaine, jure la candidate, distribuant les sourires et les selfies aux patients en fauteuil roulant, avant de s'offrir en bord de mer un interminable bain de foule, chantonnant avec les enfants. Et mobilisant les adultes.
Il y en a assez de Macron, il y en a assez.
Ah ouais, il y en a marre.
Ça suffit.
Tout le monde doit aller voter.
Ça suffit. On ira, on sera là.
La candidate visiblement émue, c'est la dernière image de la campagne entourée des Français qui m'ont donné tant d'énergie, lance-t-elle, avant de se percher sur sa voiture pour un ultime salut.
À dimanche, hein.
Reportage d'Élodie Forêt avec Marine Le Pen. Marine Le Pen qui votera dimanche toujours dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont avant de passer sa soirée électorale dans le 16e arrondissement de Paris. Emmanuel Macron lui est donc dans le Lot, département rural, après les quartiers de la Seine-Saint-Denis hier. Clin d'œil à un électorat, celui des campagnes, qui lui a préféré sa rivale du Rassemblement National il y a deux semaines. Alors le président avait choisi Souillac il y a trois ans dans le cadre du grand débat. Cette fois, le candidat a fait étape à Figeac, 10 000 habitants, sous la halle centrale, l'occasion de rappeler une dernière fois l'enjeu du scrutin, un véritable référendum selon lui.
Je trouve formidable qu'on ait des donneurs de leçons, de la bienveillance ou du respect, qui sont les pourfendeurs quotidiens de la haine et de la division du pays. Nous portons un projet d'avenir et de bienveillance. Le 24 avril sera un référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre une république laïque, unie, indivisible, ce bloc. Nous sommes pour. Le 24 avril est un référendum pour ou contre la fidélité à nos valeurs, notre histoire, ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes pour. Alors rien n'est joué. Allez convaincre. Et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble!
Propos recueillis par Maxence Lambrecq, Emmanuel Macron qui promet, s'il est réélu, que l'une des priorités du quinquennat sera une grande loi d'avenir et d'installation pour la jeunesse agricole. Précisément, le syndicat agricole FNSEA ne donne pas de consigne de vote claire avant ce second tour, mais il appelle, je cite, à voter pour une Europe plus forte face aux tentations populistes, prise de position implicite contre Marine Le Pen. Là, la consigne est claire. Elle émane d'un cadre du parti Les Républicains et elle fait donc beaucoup réagir. Soutien à Emmanuel Macron avant un rassemblement autour de son projet. Voilà ce qu'écrit Daniel Fasquel, maire du Touquet, qui n'est autre que le trésorier de LR. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Jérôme.
Vous suivez la droite pour France Inter. Daniel Fasquel propose de travailler avec Emmanuel Macron avant même une éventuelle réélection. Voilà qui fait bondir à droite.
Et oui Jérôme, car cette prise de position, c'est exactement ce que le parti redoute. Mais à partir de lundi, après la victoire de Macron, qu'anticipe les LR. On savait que ça allait secouer, mais pas dès aujourd'hui, me disait un député cet après-midi. Tout commence donc ce matin par ce tweet. Le maire LR du Touquet redit qu'il votera Macron. Un soutien préalable à un rassemblement, c'est là que le bât blesse, car c'est une allusion directe à la coalition prônée notamment par Nicolas Sarkozy et qui divise en interne. Quelques minutes plus tard, réponse d'un député LR, Julien Aubert, halte à cette ambivalence hypocrite, puis du numéro 3 du parti, Aurélien Pradier, s'il reste de l'énergie à Daniel Fasquel, il pourra devenir trésorier du comité de la lèche à Emmanuel Macron, noter la violence de la formule. En coulisses, le téléphone sonne beaucoup, le parti demande qu'on n'étale pas les divisions, c'est raté, à LR on craint une implosion avec des ralliements perlés à Emmanuel Macron. S'il l'emportait dimanche, plusieurs noms de députés, de grands élus, de cadres circulent déjà. La semaine prochaine promet d'être très animée, Jérôme.
Explication signée Anne Souhaitemont. Des remous à droite, donc avant même le second tour et avant même la fin de la campagne officielle. C'est pour ce soir minuit en métropole. Les bureaux de vote ouvriront dimanche à 8h, mais ils commencent dès demain ce vote dans les Antilles, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en Polynésie, sachez aussi qu'il est toujours temps de réaliser votre procuration. Si vous vous éloignez de votre lieu de vote dimanche, les trois zones seront en vacances ce week-end. Nous y reviendrons dans quelques minutes.
Effectivement, dans une semaine en France avec François Mickey Marty. En Ukraine, c'est le sort de Mariupol qui concentre l'attention et l'inquiétude.
Selon Moscou, 2000 militaires ukrainiens résistent encore après des semaines de siège. Ils sont retranchés dans la zone industrielle Azovstal et les soldats russes éprouvent les plus grandes difficultés pour y progresser. Vladimir Poutine leur a demandé de ne pas donner l'assaut. Il accuse aujourd'hui Kiev d'empêcher ses résistants ukrainiens de se rendre. La ville de Mariupol, elle est quasi totalement détruite. Selon les autorités ukrainiennes, 20 000 civils auraient été tués depuis le début de la bataille, ce que tente à confirmer de nouvelles images satellites publiées par la société américaine Maxar Technologies. Ces images semblent démontrer l'existence de fosses communes dans un village près de Mariupol. Entre 3 et 9 000 civils pourrait y être enterré. Valérie Crova.
Sur deux photos prises en mars, à 3 jours d'intervalle, on voit clairement des tranchées en train d'être creusées près du cimetière de Mangouche, un village occupé par les forces russes à une vingtaine de kilomètres de Mariupol. Son maire l'affirme, les Russes creusent d'énormes tranchées de 30 mètres de large et les remplissent chaque jour de cadavres qui seraient entassés les uns sur les autres. Tous seraient des civils tués dans les bombardements russes depuis le début de l'invasion, qui a coûté la vie à 20 000 habitants de la cité portuaire. Le maire de Mariupol a fait le parallèle avec le charnier de Babi Yar à Kiev, un nom qui fait référence à l'un des épisodes les plus tragiques de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 30 000 juifs ont été assassinés par balles en 2 jours par les troupes nazies en 1941. La découverte de cette nouvelle fosse commune intervient alors que des enquêteurs ont commencé à travailler sur l'identification des corps exhumés d'autres charniers en Ukraine pour déterminer si crime de guerre il y a eu.
Des fosses communes découvertes près de Mariupol, sujet à retrouver sur franceinter.fr. Emmanuel Macron en a dit plus aujourd'hui sur les armes livrées par la France à l'Ukraine, des missiles anti-chars et des canons, précise le chef de l'État dans un entretien au journal Ouest France. Au Brésil, après 2 annulations, l'édition du Carnaval 2022 débute ce soir, première nuit de défilé au Samba Drôme, avec 2 mois de retard sur le calendrier habituel. Carnaval rendu possible par le reflux de l'épidémie de Covid. Encore une centaine de décès par jour au Brésil. On en comptait hier en France 139 pour, dans notre pays, 24 800 hospitalisations. Dans l'actualité également ce soir, cet acquittement dans l'affaire du viol présumé au 36 Quai des Orfèvres. Acquittement coup de théâtre des 2 policiers accusés de viol par une touriste canadienne. Une affaire vieille de 8 ans. C'était en 2014 au siège de la PJ parisienne. Les agents de la BRI avaient été condamnés à 7 ans de prison il y a 3 ans. La même peine avait été requise cette année, mais la cour d'assises du Val-de-Marne On a donc décidé autrement. Les deux hommes sont ressortis libres du palais de justice. On y revient dans le journal de 19h. La surprenante découverte de gendarmes en Île-de-France cette semaine, de la cocaïne retrouvée à l'intérieur de manioc vendu dans les supermarchés Leclerc d'Orly dans le Val-de-Marne et de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Les légumes avaient été préalablement coupés en deux et vidés pour y glisser des sachets de drogue. Au final, 4 kilos de cocaïne saisie, valeur estimée 300 000 euros.
Du monde attendu sur les côtes ce week-end, les 3 zones scolaires sont en vacances.
Oui, la saison, on le sait, a été très bonne pour les professionnels du tourisme en montagne. En bord de mer, ces vacances de Pâques donnent une indication de la fréquentation des prochains mois. Et en Normandie, le Mont-Saint-Michel est un excellent baromètre. 600 000 visites pour l'abbaye l'an dernier et le succès ne se dément pas en ce mois d'avril. Reportage Selma Rich dans la foule.
C'est vrai qu'on est un peu les uns sur les autres dans les ruelles du village, alors Corinne essaie de se frayer un chemin sur les marches.
C'est une marée humaine, donc on attend de visiter la basilique. On a réservé notre billet, on a bien fait visiblement. On ne pensait pas avoir un temps aussi magnifique, aussi radieux. C'est charmant, c'est magnifique, c'est vraiment très beau.
Alors on se sert sur les remparts pour trouver une place à l'ombre et manger un sandwich. Les plus courageux, eux, font la queue devant les restaurants. À l'auberge Saint-Pierre, Christine est complète.
On trouve un rythme normal. Avant, pendant la pandémie, c'était vraiment une tristesse.
Dans les boutiques souvenirs, les médailles et les cartes postales partent comme des petits pains. À la librairie religieuse, Elodie à la caisse n'arrête pas.
C'est chaud. Il y a eu pas mal de monde ce week-end et du coup jusqu'à lundi. Et là, ça continue. Donc c'est bien. On n'est plus habitué. Donc là, ça fait bizarre ce gros paquet de monde qui arrive et on se sent comme un petit peu oppressé. Mais bon, bah du coup, ça fait quand même plaisir de voir des gens.
Et parmi tout ce monde, les étrangers reviennent et c'est Alice qui les accueille à l'office de tourisme.
Là, on commence à voir des Américains, des Sud-Américains, quelques Asiatiques. Donc ça nous fait plaisir. On est content de retrouver une clientèle internationale.
Maintenant, place aux Parisiens qui commencent leurs vacances ce soir. Ici au Mont-Saint-Michel, on est prêt à les accueillir.
Selma Rich, France Bleu Cotentin. Pour refermer ce journal, le choix du service culture d'Inter nous emmène à Nice, au Théâtre National, où l'actrice Isabella Rossellini répète en ce moment Le sourire de Darwin, un texte qu'elle a écrit pour réunir ses deux passions, les animaux et son métier d'actrice. Stéphane Capron a rencontré pour nous la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini.
Là, tu dois faire premier exemple et avant le deuxième exemple, tu nous expliques une autre couche.
Je vous aime, je veux rester avec vous toute ma vie.
La carrière d'Isabella Rossellini est impressionnante. De ses rôles dans des films mythiques comme Blue Velvet de David Lynch à son métier de mannequin. Depuis plusieurs années, elle s'est engagée pour la protection de l'environnement et de la nature. Elle gère une ferme bio à côté de New York. Elle a repris les études il y a quelques années pour devenir éthologue, ce qui l'a conduit à écrire ce texte, Le sourire de Darwin.
Darwin a écrit un livre qui s'appelle « Les expressions des émotions des hommes et des animaux ». Alors ce titre veut dire aussi que Darwin croyait que les animaux ont des émotions et les expriment. Parce que Darwin croyait que nous sommes des animaux aussi, il y a une continuité entre nous et eux. Et donc moi j'avais toujours vécu ces deux intérêts que j'avais, l'actrice, qui est le comportement des hommes, et avec les animaux, surtout le comportement des animaux. Mais je les avais vécus comme deux choses différentes. Et puis un jour, en lisant ce livre, j'ai compris que c'était la même chose.
Dans Le sourire de Darwin, Isabella Rossellini réunit l'art et la science. Elle explique comment l'empathie qui est à la base du jeu d'acteur est également nécessaire pour l'étude du comportement animal. Un spectacle qui est aussi une grande déclaration d'amour au cinéma et au théâtre.
Dans les coulisses de ce spectacle, Le sourire de Darwin, reportage à retrouver demain en longueur, juste avant 7h, dans le 6-9 sur France Inter. Et pour ceux qui dorment le samedi matin, c'est aussi sur franceinter.fr.
Pensez à quelqu'un.
Il y en a.
Pensez à vous-même. Hein.
Non, pas du tout.
J'ai bien compris. Merci beaucoup. C'était le journal de Jérôme Cadet. On prend des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Les orages gagnent du terrain ce soir.
Oui, effectivement, des orages se sont développés par évolution d'urne vers le massif central. Ils vont s'étendre d'ici ce soir vers la région Poitou-Charentes et jusque vers la côte sud de la Bretagne. Des averses orageuses sont prévues aussi entre les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes, ainsi que sur le relief jurassien.
Et demain, peu de chances d'échapper à ces orages.
Non, effectivement, nous allons les retrouver d'abord demain matin dans le sud-ouest et le sud. Ils seront forts l'après-midi entre les Cévennes et la région région PACA les plus associées seront soutenues, apportant localement de bons cumuls de pluie. Le vent sera aussi de la partie avec des rafales de secteur sud, voisines de 90 voire 100 km par heure. Et puis en remontant vers le nord, après une matinée plutôt calme, l'activité orageuse va gagner du terrain en cours d'après-midi et soirée. Seuls la Corse et les bords de Manche conserveront un temps ensoleillé. Et puis côté température, les maximales évolueront entre 15 et 23 degrés avec 15 à La Rochelle, 16 à Nîmes, 17 à Lyon, 19 à Rennes, 20 à Strasbourg, 21 à Lille, 22 à Paris, puis on ira quand même jusqu'à 23 à Ajaccio.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.